Étienne Bonneau de Condillac. Traité des sensations, partie 1. Des sens qui par eux-mêmes ne jugent pas des objets extérieurs. Chapitre 10. Du goût seul et du goût joint à l'odorat et à l'ouïe. La statue acquiert les mêmes facultés qu'avec l'odorat. Ne donnant de sensibilité qu'à l'intérieur de la bouche de notre statue, je ne saurais lui faire prendre aucune nourriture, mais je suppose que l'air lui apporte à mon gré toutes sortes de saveurs et soit propre à la nourrir toutes les fois que je le jugerai nécessaire. Elle acquerra les mêmes facultés qu'avec l'ouïe ou l'odorat, et parce que sa bouche est aux saveurs, ce que le nez est aux odeurs, et l'oreille au bruit, plusieurs saveurs réunies lui paraîtront comme une seule, et elle ne les distinguera qu'autant qu'elles se succéderont. Le goût contribue plus que l'odorat et que l'ouïe à son bonheur et à son malheur. Le goût peut ordinairement contribuer plus que l'odorat à son bonheur et à son malheur, car les saveurs affectent communément avec plus de force que les odeurs. Il y contribue même encore plus que les sons harmonieux, parce que le besoin de nourriture lui rend les saveurs plus nécessaires, et par conséquent, les lui fait goûter avec plus de vivacité. La faim pourra la rendre malheureuse, mais dès qu'elle aura remarqué les sensations propres à l'apaiser, elle y déterminera davantage son attention, les désirera avec plus de violence, et en jouira avec plus de délices. Discernement qu'elle fait des sensations qui lui transmettent. Si nous réunissons le goût à l'ouïe et à l'odorat, la statue parviendra à démêler les sensations qui lui transmettent à la fois, lorsqu'elle aura appris à les connaître séparément, pourvu néanmoins que son attention se partage à peu près également entre elles. Ainsi voilà son existence, en quelque sorte triplée. Il est vrai qu'il ne lui sera pas toujours aisé de faire la différence d'une saveur à une odeur, que d'une saveur à un son. L'odorat et le goût ont une si grande analogie que leurs sensations doivent quelquefois se confondre. Le goût peut nuire aux autres sens. Comme nous venons de voir que les saveurs doivent l'intéresser plus que toute autre sensation, elle s'en occupera d'autant plus que sa faim sera plus grande. Le goût pourra donc nuire aux autres sens, jusqu'à la rendre insensible aux odeurs et à l'harmonie. Avantage résultant de la réunion de ses sens. La réunion de ses sens étendra et variera davantage la chaîne de ses idées, augmentera le nombre de ses désirs et lui fera contracter de nouvelles habitudes. Doute sur leurs effets. Cependant, il est très difficile de déterminer jusqu'à quel point la statue pourra distinguer les manières d'être qu'elle leur doit. Peut-être son discernement est-il moins étendu que je ne l'imagine, peut-être l'est-il davantage. Pour en juger, il faudrait se mettre tout à fait à sa place et se dépouiller entièrement de toutes ses habitudes, mais je ne me flatte pas d'y avoir toujours réussi. L'habitude de rapporter chaque espèce de sensation à un organe particulier doit beaucoup contribuer à nous en faire faire la différence. Sans elle, peut-être que nos sensations seraient une espèce de chaos pour nous. En ce cas, le discernement de la statue serait fort borné. Mais il faut remarquer que l'incertitude, ou la fausseté même de quelques conjectures, ne saurait nuire au fond de cet ouvrage. Quand j'observe cette statue, c'est moins pour m'assurer de ce qui se passe en elle que pour découvrir ce qui se passe en nous. Je puis me tromper en lui attribuant des opérations dont elle n'est pas encore capable, mais de pareilles erreurs ne tirent pas à conséquence si elles mettent le lecteur en état d'observer comment ces opérations s'exécutent en lui-même.